Écho d'économie.
Réduire le délai du dédouanement des marchandises au port international de Matadi, c'est l'un des objectifs d'initiative à résultat rapide que s'est assigné le commissariat provincial au plan dans le Bas-Congo. C'est dans le cadre du plan de performance dont l'évaluation est prévue dans les 100 prochains jours. La prévention et la gestion des crises dans les entreprises de microfinance à Goma. Ce sujet était au centre des discussions ce week-end entre notamment la Banque mondiale, le PNUD, un organisme de droit public allemand. Elles n'ont plus que quelques heures pour déposer leurs preuves de paiement fiscal pour l'exercice 2012. Le coordonnateur national de l'ITE lance cet appel aux entreprises pour éviter le risque d'être radié du processus ITE. Bonsoir et bienvenue à tous. Direction le Bas-Congo, où le commissariat provincial au plan s'est assigné des objectifs d'initiative à résultat rapide. C'est entre autres réduire le délai du dédouanement des marchandises au port international de Matadi, créer une entreprise dans le Bas-Congo. C'était à l'issue d'un atelier sur le projet de capacité de gestion de fonctions de base de l'administration publique organisé par le Service national de renforcement des capacités, SENAREC en sigle, avec l'appui de la Banque mondiale. L'évaluation de ce plan de performance est prévue dans les 100 prochains jours. Au cours d'un entretien avec Radio Kapi, le commissaire provincial au plan, Simon Mboso Kiamputu, a déclaré que son commissariat vise à l'amélioration du climat des affaires. On l'écoute au micro de Danny Kindanzita.
Trois initiatives qui vont être exercées, l'une par le commissariat au plan, c'est pour accompagner la direction générale des douanes accises, la société congolaise des ports et des transports, donc le Sonatra, l'ordre opérationnel qui se trouve au port, donc l'OCC, les quatre services qui doivent fonctionner au niveau du port, à travers les guichets uniques, nous allons les accompagner pour réduire ces délais de 63 jours aujourd'hui. Nous voulons le ramener dans 100 jours, à 15 jours maximum, et en tout cas, au cours de l'année 2015, on doit être au maximum à 7 jours. Nous voulons, nous aussi, avoir un guichet unique dans les 100 jours qui viennent à Matadi pour que des nouvelles sociétés soient créées en 3 jours. Nous devons réduire les temps, les délais. Quand on réduit les temps et les délais, on réduit aussi les coûts. Les axes sur lesquels nous allons travailler concernent essentiellement l'amélioration du climat des affaires.
En province orientale, l'heure est à l'évaluation de l'exercice 2014 à l'OCC. D'après le président du conseil d'administration de l'OCC, au cours d'un point de presse à Kisangani, plus de 80% des orientations données à l'Office congolais de contrôle province orientale ont été réalisées dans le cadre de sa mission de contrôle des consommables importés et exportés. Mais au vu des fraudes qui s'appliquent au niveau des frontières et qui échappent à ces services, le PCA appelle les opérateurs économiques au bon sens pour ne pas exposer la population congolaise aux intoxications. Le PCA de l'OCC appelle aussi le gouvernement provincial à lui prêter main forte dans cette noble mission. Jean-Pierre Mbala Kassanda est au micro d'Anselme Massoua.
Les opérateurs économiques, toujours verrés, il n'y aura parfois que certaines conséquences de leur mauvais comportement peuvent aussi s'appliquer à eux-mêmes de manière directe ou indirecte. Il y a des opérateurs économiques qui s'étaient spécialisés dans certains mélanges qui ont comme conséquence la mise en moule de certains moteurs de véhicules et en même temps la mise en difficulté sur les plans sanitaires de nos populations. C'est quoi ce sont des maladies respiratoires? Il y a d'abord le fait que nous avons des frontières poreuses, mais il y a aussi le civisme, le patriotisme, la responsabilité qui incombe aux opérateurs économiques qui sont des Congolais, qui ont des membres de famille, par-ci, par-là, qui sont congolais. Nous en appelons au soutien des autorités provinciales, promouvoir les contrôles des transactions locales. Quand les produits arrivent au niveau du port de la ville de Kisangani, on doit encourager la présence de l'OCC de manière à contrôler les produits venant de Kisangani, voir si ces produits restent propres à la consommation. Et ça ne peut se faire qu'avec le soutien de l'autorité provinciale, parce que la mission de l'OCC s'arrête au niveau des frontières du territoire national.
Comment prévenir les crises de liquidité dans les entreprises de microfinance de Goma et comment les gérer dès qu'elles existent déjà? C'est le thème de l'atelier tenu ce week-end à Goma par le Fonds pour l'inclusion financière en RDC, un fonds multimodal, Banque mondiale, PNUD et KfW, un organisme de droit public allemand. Goma est parmi les villes congolaises où plusieurs institutions de microfinance ou de crédit ont fait faillite ces derniers temps, d'où la tenue de ce forum avec les responsables de ces entreprises financières venues de Bukavu et de Goma. Le directeur général du FPM et animateur de l'atelier, Jean-Claude Totika, est au micro de Jules Ngala.
Il est important que toutes les institutions soient bien gérées. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a une banque centrale pour pouvoir réglementer ça. C'est très important parce que ça met en danger la vie et l'épargne du public. C'est-à-dire que chaque fois qu'une banque ou une institution de microfinance fait faillite, cela suppose qu'il n'y a pas d'argent pour payer les minéraux, pour ne pas payer les soins, tu vois. Ce n'est pas des gros riches qui vont dans les institutions de microfinance, c'est les citoyens lambda, n'est-ce pas, des ménages pauvres. Donc on ne peut pas se permettre de pouvoir perdre de l'argent et la couche de la population pauvre. Nous avons toujours été à Goma. Malheureusement, comme vous le savez, parmi les noms que vous avez entendus qui ont fait faillite, je peux vous dire la vérité aujourd'hui parce que c'est plus un secret, ils n'ont jamais laissé le FPM entrer.
C'est-à-dire ?
On nous a jamais permis de pouvoir les conseiller.
Difficile de manger actuellement à Zongo, dans l'extrême nord de la province de l'Équateur. À en croire le maire de la ville, Michel Siazo, la nationale Zongo Gemena, principale voie d'approvisionnement de denrées alimentaires, reste coupée à plusieurs endroits par les inondations. Les eaux de pluie qui s'abattent depuis un mois sur la région empêchent les véhicules d'emmener les produits vivriers à Zongo. Avec le flux actuel des réfugiés centrafricains dans la ville, le maire ajoute que les prix ont augmenté sur le marché et la situation devient intenable, surtout pour les fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis 3 mois. Je vous propose donc ce SOS du maire de la ville, Michel Siazo, et joint par Paul-Richard Malengela.
Pour finir, on doit savoir que la rue des hommes au départ du sud Oubangué, des environs, par rapport à l'arrivée des produits agricoles, et l'état des routes Zongo-Gemena, qui était déjà très dégradé avec la pluie, dans plusieurs endroits, l'eau a traversé la route. Actuellement, il n'y a aucun véhicule qui arrive. Il y a d'abord arrêté de denrées alimentaires, et maintenant, il y a problème de non-paiement de salaire depuis le mois de septembre, que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Ils ont aussi des difficultés, ils n'ont pas d'argent en main pour aller, même le peu qui se voit sur le marché, aller acheter. Aussi, la rue de Zongo a accueilli beaucoup plus de réfugiés, nos frères centrafricains qui sont ici, avec le nombre croissant de la population. Sur le marché, vous trouvez qu'il n'y a pas de nourriture. Nous vivons difficilement, cela affecte la situation socio-économique. Nous lançons depuis la à qui peut nous écouter, les ONG internationales, le gouvernement provincial, le gouvernement national, pour nous venir en aide, ça sera une décision très salutaire pour nous.
Écho d'économie. Je voulais annoncer, la RDC risque d'être radiée du processus de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE en sigle. 25 entreprises minières installées au Katanga n'ont toujours pas déposé leurs preuves de paiement fiscal pour l'exercice 2012. Pour ce faire, le coordonnateur national de l'ITIE demande au gouvernement de faire pression sur ces entreprises, faute de quoi, au-delà du 25 novembre prochain, le rapport ITIE-RDC 2012 ne sera plus publié. Déclaration faite ce week-end à Radio Capi par Jérémy Mandouba. Il est au micro de Colin Dumas-Moussampo.
Nous avons des entreprises minières du Katanga, 25 entreprises aujourd'hui qui n'ont pas fait auditer leurs comptes en 2012 ou qui n'ont pas de preuves. Ces entreprises n'ont pas communiqué les volumes de leur production. Comment on peut accepter qu'une entreprise fonctionne dans un pays comme le nôtre, un pays de droit, et qu'il y a 2 ans, cette entreprise n'a aucune preuve que ses comptes avaient été certifiés par un commissaire aux comptes, qu'il y a des preuves des auditeurs. Donc, ces choses-là sont des éléments que nous devons produire, et puisque nous les avons pas produits, ça nous bloque.
Quelle sera la conséquence?
La conséquence, c'est que si ces entreprises ne nous donnent pas les données dont nous parlons maintenant, nous sommes complètement en dehors du processus et on nous chasse. Nous demandons à ce que le Premier ministre puisse user de son autorité primaire et en premier chef pour exiger que ces entreprises nous donnent ces informations au plus tard le 25 à minuit.
Pendant ce temps, à Kindu, les exploitants artisanaux doivent quitter l'informel vers le formel et être reconnus par le gouvernement afin d'exploiter dans la légalité. C'est l'objectif d'une formation qu'organise le Krang Maniema avec l'appui de l'initiative Diamants et Développement, DDI en sigle, une ONG canadienne qui travaille dans le secteur minier. Cette dernière précise que ceux qui bénéficient de la formation doivent à leur tour transmettre les leçons apprises à d'autres exploitants artisanaux à travers la province. Félicien Bikaï, coordonnateur national de l'initiative Diamants et Développement, explique le bien fondé de cette formation. Il est au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
Nous sommes venus pour former les enregistreurs. Ils auront besoin d'utiliser certains outils, notamment les iPads, savoir interpréter le formulaire d'enregistrement, l'enquêteur aussi savoir interpréter les questions d'enquête et surtout savoir manipuler cet outil informatique qu'ils doivent utiliser. Mais aussi, nous devons revenir sur le code de conduite, comment l'enregistreur devra se conduire, s'engager par rapport à ce travail, parce qu'ils doivent comprendre qu'ils doivent exclusivement travailler pour un projet d'enregistrement des exploitants artisanaux, des minerais de 3T, de l'or, diamants, partout où ils sont, les enregistreurs doivent aller là-bas pour les identifier, les enregistrer, que notre gouvernement arrive à maîtriser les effectifs des exploitants artisanaux. Parce qu'on voudrait que les exploitants artisanaux deviennent formels, qu'ils quittent l'informel vers le formel, qu'ils soient reconnus par le gouvernement, qu'ils puissent exploiter dans la légalité, savoir qui ils sont, où ils sont et ils exploitent quoi avant de passer à d'autres étapes de la formalisation.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Julien Niamouini, mise en onde par Alain Goy et suivie par vous. Merci.